on n'a pas voulu être dans la complaisance en s'attardant longuement sur des scènes de violence. Ceci étant dit, je dois quand même confesser, mais parce que c'est toute l'ambiguïté de tout récit qui traite de la violence, qu'il est difficile, et a fortiori dans l'heroic fantasy, qui est un genre à part, il est difficile de ne pas quand même magnifier une forme de violence et quelque part l'esthétiser. C'est-à-dire que typiquement, quand on dit d'ailleurs d'un film, il y a une violence graphique, pour faire référence à une violence qui est celle de souvent de la bande dessinée, et qui est une violence qui est finalement assez belle. J'aurais en tête, par exemple, les récits de Sin City par Miller, qui sont sensationnels à certains égards, complètement insupportables à d'autres, parce qu'on n'est jamais très loin de la complaisance dans le fait de représenter une forme esthétique de violence. Dans Le Dieu Fauve, on est sur une ligne de crête. Par contre, je ne voudrais pas laisser entendre que du coup, on s'en sort complètement sans tâche. Parce que ça fait même un peu partie du sujet. C'est une partie de l'ambiguïté d'une approche de la violence, quelle qu'elle soit. C'est que on aura beau essayer de dénoncer la violence ou de dire regardez ce qu'elle implique, il y aura dans le fait même de la montrer une forme d'attraction. Il y a quelque chose de très viscéral et qui fait pour moi partie de l'heroic fantasy. Hein. Il y a quelque chose de très adolescent dans l'heroic fantasy, qui est une forme de fascination pour cette violence. Simplement, Roger a réussi, parce qu'il est hyper talentueux, à ce que ce ne soit jamais monstrueux ou traumatisant à regarder. Il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de choses qui sont hors champ. Mais il y a aussi des scènes qui sont montrées relativement frontalement, mais aussi parfois dans leur crudité. Alors ça mélange à la fois pour la fascination, pour le respect des codes. Je pense à une scène, par exemple, avec un personnage qu'on surnomme la guerrière, qui à un moment donné, dans une scène qui est assez iconique, match, on va dire, à tous les codes de l'heroic fantasy façon Frazetta, cet illustrateur américain bien connu qui a entre autres illustré les histoires de Conan le Barbare de Howard, en tout cas c'est les couvertures de ses albums, de ses livres. C'est une de ces scènes iconiques où on voit un guerrier, dans notre cas c'est une guerrière, en train de massacrer ses ennemis à grands coups de hache en étant au sommet d'une espèce de pyramide humaine comme ça. C'est vraiment un code de l'heroic fantasy que j'affectionne, que j'ai du coup donné aux lecteurs, lectrices qui ont envie de trouver ça dans leur récit d'heroic fantasy, de même qu'on veut des duels au pistolet dans un western, ça fait partie pour moi des passages obligés. Mais donc c'est ambigu, parce que je donne quelque part, j'assouvis cette envie de violence graphique, et Roger le fait en plus brillamment, mais j'essaie ensuite de twister ce qu'on devrait ressentir de ça, à savoir une satisfaction malsaine, en rajoutant des contrepoints. Et dans ces contrepoints, il y a déjà pour un lecteur lambda mâle, c'est la surprise de voir que là, c'est une femme qui massacre des hommes. Premier twist, premier grincement. Et ensuite, les dialogues autour, la narration qui vient apporter un contrepoint qui montre qu'à ce moment-là du récit, la guerrière est dans une lassitude du combat. C'est-à-dire, en fait, elle en veut à ses victimes de lui faire perdre du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'héroïsation de la chose. Il y a plutôt une espèce de lassitude qui serait celle que moi je ressentais quand, à une époque lointaine où j'osais encore faire ça, j'avais aidé à la castration de poulets. J'ai un peu honte de le dire maintenant, hein, pour payer, enfin, me payer un petit peu des vacances d'été, des choses comme ça. J'avais été dans une équipe qui castrait des poulets dans le sud de la France. Et au début, je trouvais ça assez horrible et je m'étais demandé comment je m'étais retrouvé à faire ça, parce qu'un ami m'avait demandé de l'accompagner. Et au bout de 3 jours, j'en voulais aux poulets. Parce que c'est pénible de passer du temps avec des bêtes qui te piquent, qui te chient dessus, qui t'en veulent, et c'est normal. Mais on se met dans une logique industrielle, une logique de répétition, et un peu comme les récits qu'on peut lire, les témoignages des hommes et des femmes, essentiellement des hommes qui travaillent dans les abattoirs. Il y a une double violence dans un abattoir, par exemple. C'est que il y a la violence contre l'animal, qui est monstrueuse. Quand on voit les vidéos, c'est insupportable. Mais il y a aussi une violence sociétale sur les humains qui pratiquent cet abattage, qui sont pressurés. C'est des conditions de vie qui sont affreuses, qui sont socialement affreuses. C'est des gens qui sont brisés, dont le corps est brisé, et qui en veulent aux bêtes de leur résister au bout d'un moment. Donc finalement, c'est une lutte des faibles contre les faibles dans un cadre qui est beaucoup plus grand, qui a permis cette domination. J'ai fait un très long détour par des souvenirs personnels et par une analyse maintenant là, de l'abattage de la viande. Ça peut paraître hors sujet, mais étonnamment, tout ça est très présent en sous-texte dans ce que j'essaie de dire du rapport entre l'humain, l'animal et la violence, à savoir des fois la violence, tout le monde l'a subie dans le cadre d'une espèce de méta-situation qui englobe tout ce monde-là et dresse les uns contre les autres presque malgré eux.